Alors, petit récapitulatif des épisodes précédents de notre série passionnante sur l'Alliance. Rappelez-vous, on a pas mal parlé de l'Alliance avec Abraham. Abraham à qui Dieu a promis une descendance nombreuse et une terre, qui sera la terre de Canaan. Et puis, le peuple est parti en Égypte, où il est devenu très nombreux. Donc, c'est déjà l'accomplissement de cette première partie de la promesse, une descendance nombreuse, ça y est, on y est. Et puis, le peuple a été libéré d'Égypte, sorti d'Égypte, guidé par Moïse, avec la fuite au désert du Sinaï, où Dieu décide de consacrer ce peuple à lui pour qu'il lui appartienne. On est à peu près vers 1250 avant Jésus-Christ et vous avez une partie de l'itinéraire sur la carte. Le peuple quitte l'Égypte pour aller dans le désert et au désert, il y a l'alliance avec Moïse au Sinaï avec le don de la loi pour que le peuple soit vraiment libre et consacré à Dieu. C'est les deux dernières étapes que vous avez découverte avec le père Marc-Antoine. Et puis, ensuite, le peuple d'Israël est entré en terre de Canaan avec Josué, ça on n'a pas le temps de le voir. Mais donc, ça y est, il reçoit la terre et donc la promesse faite à Abraham est accomplie. Le peuple est nombreux et il a une terre. Ce peuple veut avoir, comme les autres peuples, un roi et Dieu concède au peuple d'Israël d'avoir un roi, ce qui est quand même une difficulté parce que Dieu est le roi d'Israël. Voilà, donc petite concurrence possible. En tout cas, Dieu accepte de consacrer un roi qui va régner en son nom sur Israël. Et il y aura deux grandes figures de roi, le roi David et puis le roi Salomon. Et c'est le roi Salomon qui construira un temple pour que l'arche qui contient les tables de la loi que Dieu avait donnée à Moïse dans le désert, cette arche, cette boîte en bois doré, puisse avoir un lieu, non plus une tente, mais un temple. Et donc, le temple va être inauguré par le roi Salomon. On est à peu près au 10e siècle avant Jésus-Christ. Et Dieu va manifester sa présence avec une nuée lumineuse qui envahit le temple tellement bien que les prêtres doivent arrêter la célébration. Dieu manifeste qu'il est présent, que son nom, comme il dit, est présent dans le temple. Et puis, trois siècles passent et le roi Nabuchodonosor, c'est un nom amusant et facile à retenir, qui est roi de Babylone, va venir détruire le temple et par deux fois exiler une partie du peuple d'Israël à Babylone. Et donc, le peuple a tout perdu. Il a perdu son roi, qui est mis à mort. Il a perdu sa terre, puisqu'il est exilé. Et il a perdu une partie du peuple. Ce qu'on appelle l'exil à Babylone, qui est une période très importante de l'histoire d'Israël, parce qu'il n'y aura plus de sacrifice possible dans le temple. On est sur les bords du fleuve de Babylone. Alors vous avez sur la carte l'itinéraire qui a été fait, qui est entre parenthèses, et l'itinéraire inverse de l'itinéraire qu'Abraham avait fait avec son père. Il était parti d'Ur en Chaldée, en gros Babylone, et il était monté le long de ce qu'on appelle le croissant fertile pour arriver en terre de Canaan. Donc ils font marche en arrière, si j'ose dire, et qui est un temps d'épreuve que Dieu permet, dans lequel Dieu va parler de façon très forte à Israël. Et à travers deux grands prophètes dont on va parler ce soir, le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel. Pardon. C'est dans ce contexte-là, d'effondrement, si j'ose dire, du peuple, qui est exilé à Babylone, qui a donc perdu les fruits de la promesse faite à Abraham, que Dieu parle au peuple à travers le prophète Jérémie. Donc on va écouter Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare le Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël en ces jours-là, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, déclare le Seigneur. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà, c'est un extrait, on pourrait lire un peu plus. Mais c'est la promesse de la nouvelle alliance qui est faite dans un contexte où le prophète rappelle que le peuple n'a pas été fidèle à l'alliance et c'est la raison pour laquelle il a été déporté à Babylone, exilé. Cette alliance qu'eux-mêmes ont rompue. Alors, un petit élément de contexte historique. Le roi Josias, 7e siècle avant Jésus-Christ, est suscité par Dieu comme un digne successeur du roi David pour libérer Juda des faux prêtres qui sacrifient aux idoles. Donc les idoles, ce sont des divinités païennes des peuples avoisinants. Et ce roi Josias est très conscient des infidélités du peuple à la loi du Seigneur et de la colère de Dieu parce que le peuple a abandonné Dieu pour sacrifier, c'est-à-dire pour faire des sacrifices à d'autres dieux, d'autres divinités. Et donc, il fait une réforme importante du culte. Il restaure à son époque déjà le temple de Jérusalem, convoque le peuple au temple, lit lui-même tout le contenu du livre de l'Alliance qu'il a retrouvé dans le temple. Et le livre, deuxième livre des rois nous dit « Tout le peuple adhéra à l'Alliance ». Il fait détruire les objets des cultes païens, supprime les prêtres de ces cultes, démolit les autels donc dédiés à des divinités païennes. Et en la 18e année de sa royauté, il fait célébrer la fête de Pâques avec beaucoup de fastes. Voilà. Et le livre des rois, le second livre des rois conclut, les nécromants, donc ceux qui invoquent les morts, les devins, les dieux domestiques et les idoles, et toutes les horreurs qu'on pouvait voir dans tout le pays de Juda et à Jérusalem, Josias les fit disparaître en exécution des paroles de la loi. Mais il se trouve que ces réformes faites par le roi, Josias, ne suffisent pas à rétablir l'alliance parce que le peuple continue à vénérer les idoles à gauche et à droite. Alors, je voudrais qu'on s'arrête aujourd'hui sur la question de l'idolâtrie, qui est une question très importante, et puis qui, vous allez voir, va éclairer notre parcours de conversion et notre parcours de carême actuellement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ? C'est le premier grand péché dénoncé par la Bible comme contraire à l'alliance et à l'amour de Dieu. Je vous ai mis deux extraits du catéchisme de l'Église catholique. Le premier commandement, rappelez-vous ce qui a été dit dans les 10 commandements la dernière fois. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, condamne le polythéisme, le fait d'avoir plusieurs divinités. Il exige de l'homme de ne pas croire en d'autres dieux que Dieu, avec un D majuscule, de ne pas vénérer d'autres divinités que l'unique, Dieu. L'Écriture rappelle constamment ce rejet des idoles, or et argent, œuvres de mains humaines, des petites statuettes qui sont faites avec du métal, mais qui ne sont que l'œuvre de mains humaines. Elles qui ont une bouche et ne parlent pas, qui ont des yeux et ne voient pas, ces idoles vaines rendent vains, comme elles seront tous ceux qui les firent, quiconque mette en elles sa foi. Dieu, au contraire, est le Dieu vivant qui fait vivre et intervient dans l'histoire. Alors vous avez un petit commentaire juste après. Ce psaume 113, il est très intéressant. Leurs idoles, or et argent, ouvrages de mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas, leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier. Et le psaume termine, vous avez bien entendu, qu'ils deviennent comme elles tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Si vous adorez une divinité, c'est-à-dire un petit personnage en métal, une divinité qui est censé avoir tel ou tel pouvoir, vous allez devenir comme cette divinité, impossible de parler pour louer Dieu, impossible de voir l'œuvre de Dieu, vous n'entendrez plus sa parole de Dieu, vous serez incapable de marcher pour faire le bien, et vous allez perdre, en fait, le dynamisme de vie donné par Dieu. C'est ça, hein, qui dit, celui qui adore les idoles leur ressemblera. Il deviendra muet, aveugle, insensible, immobile et sans vie. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est peut-être éclairé des difficultés sur lesquelles on bute, nous, chacun d'entre nous, aujourd'hui. Et donc, l'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme, elle reste une tentation constante de la foi. C'est notre combat numéro un, à vous et à moi, et ce sera notre combat toute notre vie. Elle consiste à diviniser, à donner un pouvoir divin à ce qui n'est pas Dieu. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu. Qu'il s'agisse des dieux, donc des divinités, ou des démons, par exemple le satanisme, de pouvoir, de plaisir, de la race, des ancêtres, de l'État, de l'argent, etc. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon, mammon c'est une expression pour parler de l'argent, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, dit Jésus. Et au cours des siècles, ici d'ailleurs à Lyon avec Sainte Blandine et les premiers chrétiens, de nombreux martyrs sont morts en refusant d'adorer la bête, en refusant de simuler le culte de divinité autre que Dieu. Sainte Blandine et Saint Potin et les premiers martyrs, ils ont refusé de vénérer une statue de l'empereur. L'idolâtre récuse l'unique seigneurie de Dieu, Dieu seul est seigneur. Voilà. Et donc l'idolâtrie est donc incompatible avec la communion avec Dieu, la communion divine. Et donc il y a une conscience aiguë que la destruction du temple de la ville de Jérusalem, qui encore une fois, c'est un traumatisme terrible pour Israël, et l'exil à Babylone, sont les conséquences de l'infidélité du peuple à Dieu, et que donc Dieu a éprouvé son peuple. Et donc ce peuple a tout perdu, la terre sainte donnée par Dieu, le temple de Jérusalem, lieu de la présence de Dieu, avec l'arche et le sacrifice, voilà, le roi qui est exilé, et le peuple est réduit à l'esclavage et à vivre en terre païenne au milieu des divinités. C'est donc le temps des lamentations. Il y a d'ailleurs un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre des lamentations, où le peuple pleure et reconnaît son infidélité. Et c'est le temps des prises de conscience des infidélités à Dieu, cause de cet exil et des conversions. Ça va? Pour les grandes lignes? Alors, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Parce que nous, on n'a pas de petite divinité, de Bouddha ou d'autres, peut-être dans notre chambre, mais est-ce qu'on est concerné encore par la question de l'idolâtrie? Alors, je vous propose une lecture de la culture occidentale récente, chez nous. Pendant toute une période, en gros pendant une bonne dizaine de siècles, le christianisme a été la religion qui a fécondé la culture en Occident. On peut dire ça, avec l'essor du monachisme, avec un tas de choses. Et au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, avec l'apogée de la philosophie et des sciences, a voulu, avait comme projet de sortir l'humanité de la relation à un Dieu créateur, qui est jugé immature pour l'homme rationnel. Et les philosophes donc des Lumières veulent sortir de l'obscurantisme présumé de la religion chrétienne, voilà, notre peuple, par le biais des connaissances. On peut penser que c'est une réelle rupture d'alliance que nos peuples, façonnés par la foi chrétienne, ont commise à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est d'en comprendre les conséquences après le siècle des Lumières. Alors, ce que je dis là n'engage que moi, mon analyse. C'est que le XIXe siècle est entré dans ce que j'appelle l'ère de la fascination pour la puissance. On a eu un développement incroyable d'une puissance technique depuis la révolution industrielle, et on est bien content d'avoir des machines, des voitures, les moyens, l'électricité, etc. Bon. Mais une façon de fascination pour la puissance technique, la puissance scientifique, et appliquée à la technique, ça fait des prouesses incroyables, par exemple, de la médecine. Bon. La puissance financière, on n'a jamais eu autant de concentration financière qu'aujourd'hui, puissance économique, puissance militaire, malheureusement, on en voit les dégâts tous les jours, voilà. Et tout cela conduit à un culte de la performance qui a en fait profondément transformé notre rapport au temps et notre rapport à la personne, à l'humanité, depuis le XVIIIe siècle, en particulier au XIXe et au XXe siècle évidemment. Et on peut penser que c'est une forme d'idolâtrie, car c'est une recherche de la puissance sans Dieu. On a voulu évacuer Dieu. Très concrètement, l'agriculteur au XIXe siècle, quand il n'a pas de pluie, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des processions, qu'on appelle des rogations, pour demander à Dieu la pluie. L'agriculteur du XXIe siècle, il ne va pas faire de procession pour demander la pluie. Il cherche des techniques pour que les nuages se concentrent et mettent de la pluie. Mais il ne fait pas appel à Dieu pour intervenir dans le quotidien de son travail. Et donc, en fait, nous sommes passés dans une dépendance très forte à la science et à la technique. D'ailleurs, aujourd'hui, la parole des médecins est plus importante sur beaucoup de gens que la parole des prêtres et des philosophes. On le voit sur le débat qu'on a actuellement en cours sur la loi par rapport à la fin de vie. En fait, voilà, on a des idéologies philosophiques qui sont plus fortes qu'un certain nombre de réalités spirituelles sur le sujet, d'approche spirituelle. Et donc on est sur un changement de paradigme très profond qui a été voulu par les philosophes des Lumières. Alors, l'Église reconnaît le progrès important, l'apport important des sciences. Il y a une vraie bonté, les progrès des sciences et des techniques sont évidemment bons parce qu'ils améliorent la condition humaine. On en est tous bénéficiaires, d'ailleurs on vit beaucoup plus longtemps. Simplement, l'Église met en garde, c'est une conception du monde où il y aurait une indépendance complète des sciences et des techniques par rapport à la dimension spirituelle. C'est la question de ce qu'on appelle l'autonomie du temporel. Si on veut dire que les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur, alors la fausseté de tel propos ne peut échapper à quiconque reconnaît Dieu. Et la conclusion de ce petit texte d'un concile, qui était une rencontre d'évêques dans les années 60, 1960, qui s'appelle Vatican II, dit « La créature sans créateur s'évanouit ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne comprenez pas la personne humaine, si vous la voyez uniquement sous le prisme des sciences et de la technique, et si vous niez sa dimension spirituelle et son relation avec Dieu. Et donc les conséquences, j'en ai listé quelques-unes, c'est la perte du sens de la dignité inaliénable de toute personne humaine, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. En dehors de l'Église, il n'y a pas grand monde qui dit ça. Voilà, parce que si vous regardez simplement avec un regard scientifique, vous dites, le premier après la conception, c'est un amas de cellules, on ne sait pas si c'est une personne humaine. Il faut un regard philosophique et spirituel pour dire... cet embryon doit être respecté comme une personne humaine. Et le dire, pareil, à l'autre bout de la vie, c'est une personne humaine, sans un regard de foi et un sens spirituel des choses, vous arrivez à nier la dignité des personnes, contrairement au discours officiel. Et le pape Benoît XVI disait « Un monde sans Dieu est un enfer où prévalent les égoïsmes, les divisions dans les familles, la haine entre les peuples, entre les personnes et les peuples, le manque d'amour, de joie et d'espérance. Un monde sans Dieu est un enfer, si vous avez évacué Dieu de la culture, en fait, prévalent les égoïsmes, les divisions, les haines entre les peuples, on les voit aujourd'hui tous les jours, le manque d'amour, de joie et d'espérance. On peut penser que donc une société fascinée par la puissance ne laissera pas de place aux plus faibles, et va engendrer, en fait, par conséquence, beaucoup de personnes qui sont fragilisées pourrait développer, mais je sais pas le temps maintenant. Et puis, on va engendrer des injustices sociales croissantes. S'il n'a de la valeur que ce qui est performant et que ce qui est financièrement puissant, en fait, on met plein de gens sur le carreau, avec, entre autres, tous les conflits armés qui sont liés à des intérêts économiques, politiques, les guerres entre les peuples. Et puis, autre conséquence, les problèmes écologiques. Si la nature n'est pas une création donnée par Dieu, en fait, il va manquer une clé de fond pour respecter la nature avec toutes les questions qu'on connaît. Voilà, ça va toujours ? Un panorama réjouissant, mais c'est la réalité, semble-t-il. En tout cas, c'est une analyse. Elle n'est pas que de moi. Hein. Je m'ai beaucoup appuyé sur le pape Benoît XVI, qui est une analyse. Il disait, quand il est allé en Allemagne en 2009, il disait « C'est l'oubli de Dieu qui est la cause ultime de tous les problèmes de l'Occident, j'en suis convaincu. » C'est l'oubli de Dieu. Nous sommes dans une culture qui a évacué Dieu de la place publique, si j'ose dire. Et quand vous allez, j'ai rencontré quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit qu'il est allé en Tunisie, ben en Tunisie tout le monde fait le ramadan, et c'est public, et le ramadan c'est pour honorer Dieu. Enfin, c'est sur la place publique. D'ailleurs, si tu ne respectes pas, assez vite on va t'expliquer que tu n'es pas dans les clous, quoi. Nous, on est à l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on a évacué Dieu de la place publique. Alors, une fois cette analyse un peu théorique, et je vous invite à poser votre papier et à ne pas le lire, et à réfléchir une minute. Ça, j'ai fait un cadre un peu général, culturel, mais dans le fond, que peuvent être les idoles qui nous sont offertes par le monde dans lequel nous vivons et qui nous détournent de Dieu ? Vous avez compris que la définition d'une idole, c'est ce qui nous éloigne de Dieu, qui nous empêche de l'aimer, de l'adorer, de vivre de lui. C'est ça, hein, le fond, puisque l'idolâtrie dont il est question dans le prophète Jérémie, c'est ce qui nous éloigne de l'adoration véritable et de l'alliance avec Dieu. Et du coup, je vous propose de réfléchir une petite minute, puis on va partir là-dessus, puis je vous donnerai quelques clés, mais dans le fond, de réfléchir, nous aujourd'hui, quelles peuvent être nos idoles ? La question est claire ? Ça va ? Ce n'est pas des petites statuettes que vous avez dans votre bureau, encore qu'il y en a peut-être. Moi, il m'est arrivé de faire un voyage en Inde et puis de revenir avec une statue de Bouddha. J'étais assez content de mon truc et j'en avais mis aussi un grand panneau peint. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, non, il y a un truc. Hein. Donc, j'ai déchiré la jolie peinture, je l'ai mise à la poubelle. J'ai dit, je ne peux pas être chrétien et avoir un Bouddha dans ma chambre. Quoi. Bon, voilà. Pardon, Seigneur. Mais il y a peut-être d'autres idoles qui nous guettent à gauche et à droite. Donc, je vous propose de prendre 2 minutes pour réfléchir et puis on va en parler. Ça va ? Quelles sont les idoles auxquelles on peut être confronté ?
Moi, je trouve que l'une des plus grosses idolâtries de notre temps, c'est le travail excessif.
Le travail excessif. Il y en a qui ne travaillent pas assez et l'autre qui travaille trop. Non, mais je comprends.
Le fait que maintenant, de nos jours, c'est le travail
prend une place excessive.
Ils se connectent, ils sont en vacances, ils se connectent.
Oui.
Vraiment, le travail, c'est devenu le but de leur vie, alors que, bah, non, en fait, le but de la vie, c'est vivre.
Bonne remarque. D'autres.
Pour rejoindre ce qu'il a dit, aussi la recherche de l'argent.
La recherche de l'argent, on est dans un monde extrêmement matérialiste, où l'argent a une grande importance.
Moi, c'est plus une question. Est-ce que la peur peut être une idole dans le sens où si on ferait totalement confiance en Dieu, enfin, si on aurait totalement confiance en Dieu, on n'aurait pas toutes les choses qui nous parasitent, genre le sport à outrance, bah, les problèmes d'argent, le travail et tout, parce qu'on n'aurait pas à s'inquiéter pour l'avenir.
Peut-être que la peur est une conséquence de l'idolâtrie. Peut-être qu'on peut dire ça. Mais okay. Oui, c'est intéressant. Merci. D'autres, allez-y. Hein,
Les écrans.
Combien de temps passons-nous devant notre écran ? Combien de temps passons-nous à prier par jour ? Alors, le travail décompté, évidemment. D'autres.
Le foot.
Ah, ouais. Tous les jours, le foot.
Le sport en général.
Le sport peut être une idole, peut ne pas l'être, peut être nécessaire pour notre équilibre physique. Hein, voilà.
Nous, on pensait aux intermédiaires entre nous et Dieu. Donc, par exemple, vous idolâtrez-vous, ou le frère Paul Adrien. Ça, quand on est nouveau, on a besoin de repères, on pourrait vite tomber dans l'idolâtrie.
On peut passer d'idolâtrer des stars du monde à idolâtrer des stars de l'Église. Ce qui est assez subtil, mais ce qui peut être une tentation. Bonne remarque. D'autres.
Oui, je trouve aussi que les animaux de compagnie peuvent devenir une.
S'ils prennent la place de la relation avec les autres,
voilà.
Etc.
Si on ne passe trop de temps avec.
Si vous parlez à votre chat tous les jours, c'est pas forcément très grave. Mais si votre chat vous répond, c'est un peu plus grave.
Parce que, par exemple, le jour où ça se casse ou quelque chose comme ça, on va tout de suite associer ça à un signe de Dieu. On peut
effectivement donner un pouvoir. Voilà. Ceci dit, une médaille bénie, elle a aussi un pouvoir. Voilà. Mais il n'y a pas de superstition à tirer de cela. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas dites, oui.
Les marques, en général. Les marques d'habits.
Les marques de vêtements, etc. Ah, oui. C'est un des fléaux. Hein. Et donc, vous avez compris. Oui, oui.
La super to-do list où Dieu, il est, on va régler tout et Dieu, c'est le dernier de la liste. Comme ça, je me libère de tout et comme ça, je suis 100% pour Dieu, mais peut-être que c'est tellement ça que du coup, il n'y a pas de temps pour lui parce que.
Jeanne d'Arc disait Dieu premier servi, hein, tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu le mets en premier. D'ailleurs, ce qui est intéressant du point de vue de la prière, c'est de donner du temps à Dieu, notre temps de prière. Le premier moment possible de notre journée. Alors, parfois, les choses s'enchaînent malgré nous, et donc, le premier moment, il est relativement tard dans la journée. Mais l'idéal, c'est de lui donner le premier temps, et donc de se lever un peu plus tôt, pour concrètement, dans notre agenda, donner la première place à Dieu. Voilà, je vous ai fait une petite liste, mais qui n'est pas du tout exhaustive dans le papier, là. Recherche excessive d'argent ou de biens matériels, on l'a dit. Attachement à des superstitions.
Vas-y. Si effectivement une idole comme l'argent, par exemple, devient une priorité, mais si c'est pour faire le bien après autour de soi, est-ce que finalement c'est pas positif? Comme par exemple, je sais pas si je suis fan de musique et que je m'entraîne tous les jours, je fais que ça, mais c'est pour donner des concerts à des gens gratuitement.
D'accord. C'est un exemple. Est-ce que tu auras la liberté de t'arrêter s'il y a autre chose d'important? Est-ce que tu vas donner du temps à la prière? Est-ce que ça remplace le temps que tu pourrais donner à Dieu ou à d'autres, la messe, le service d'autres, est-ce que ça prend tout ton agenda et ça devient une priorité absolue, ou est-ce que c'est une priorité relative parce que tu veux le faire au service de Dieu, mais tu es capable d'arrêter pour des choses importantes, tu vois. Ça se vérifie sur notre liberté. Moi-même, je suis très bricoleur et de temps en temps, il faut que j'arrête mon bricolage parce que il y a un moment important. J'ai prévu d'aller célébrer la messe, j'ai prévu d'aller rencontrer des gens, et je sais que c'est prioritaire, et j'arrête ce que je fais. Sinon, je me laisse embarquer dans mon attachement excessif à des choses qui me passionnent, quoi. Parce que la passion, elle peut être bonne. C'est-à-dire que si le Seigneur te donne une passion pour la musique, et que tu es capable d'utiliser cette passion pour le Seigneur, eh ben, Dieu soit béni. Voilà. Le fait que tu sois passionné pour une chose, en soi, n'est pas mauvais. Simplement, la question est de savoir s'il y a une régulation, ou si c'est la passion qui envahit tout, et qui fait que tu n'as plus de liberté. Et d'ailleurs, tu vas le voir dans ton emploi du temps. Et donc, dans la suite de la liste, j'ai mis attachement à des superstitions ou à des pratiques occultes. On peut donner un pouvoir à des pratiques occultes, ésotériques, etc., qui, finalement, nous éloignent de la confiance en Dieu. Les écrans, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quand même un vrai sujet. Un vrai sujet. Moi, je vois des... D'abord, dans ma propre vie, finalement, si je termine ma journée avec des écrans, dans le fait, je m'endors avec quoi? Je m'endors pas avec la parole de Dieu, je m'endors avec des trucs farfelus ou plus ou moins pertinents. Et puis, ça prend un temps considérable. Enfin, moi, je le vois aussi dans des couples qu'on prépare au mariage, qui me disent, nous, on n'a plus de temps, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. Heureusement qu'il y a les soirées, parce que du coup, on peut parler en soirée de préparation au mariage. Mais il y a 20 ans, vous n'avez pas d'enfant, enfin, il y a 20 ans. C'est quoi la différence avec les couples d'il y a 20 ans? Ben, la différence, c'est que vous avez les écrans et que vous y passez 3 heures par jour. Et donc, vous êtes en difficulté dans vos relations de couple parce que les écrans vous auront mangé du temps. loisirs excessifs. Et puis, il y a toute la question des addictions. J'ai été confronté à l'accompagnement de... Enfin, amené à accompagner pas mal de personnes concernées par des addictions. Et je me souviens d'un jour, un homme que j'accompagnais sur la question de l'addiction à la pornographie qui m'a dit « J'ai compris, la pornographie est une idolâtrie. » Je donne, mais en fait, toutes les addictions, parce que le propre d'une addiction, du point de vue psychologique, c'est qu'on donne un pouvoir, inconsciemment, mais on donne un pouvoir à un objet ou à un comportement de nous rendre zen, calme, heureux et courageux. Bon. Alors, ça passe par... la cigarette, la drogue, du sport excessif, des écrans, de la pornographie et compagnie. Mais donc on donne un pouvoir. Or le pouvoir de nous rendre vivants et de nous rendre heureux, il appartient à l'Esprit-Saint. Il n'appartient pas à des machines ou à des produits. Voyez, donc que des produits puissent aider à se détendre, à aller mieux, etc. Mais évidemment. L'addiction, c'est... rentrer en fait dans un cycle, un mécanisme, alors, qui fait qu'à un moment on a perdu pour une part le contrôle des choses. Donc voilà, il faut se faire aider, mais qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'idolâtrie dans l'addiction me paraît intéressant. Ce n'est pas la seule clé pour comprendre, hein. Il faut parfois se faire aider parce que derrière il peut y avoir des vraies souffrances, des traumatismes, des choses qui nous dépassent et qu'on ne sait pas gérer. Voilà. Des projets aussi qui prennent trop de place. Moi, quand je rencontre des gens qui ont des projets et donc qui prennent toute leur vie, toute leur réflexion, tous leurs échanges et tout leur temps, je suis un peu inquiet en disant « attention, vous allez dans le mur ». Voilà. Le soin excessif de son corps, etc. Il faut prendre soin de son corps, évidemment, mais pas de façon excessive. Bref, tout ce qui prend la place de Dieu, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps d'aller à la messe, je n'ai pas eu le temps le week-end dernier, bah oui, forcément, j'étais... bon. Vous voyez, c'est intéressant, hein. J'ai pas eu le temps de prier, j'ai pas eu le temps d'aller à la messe. Ça veut dire que j'ai donné une priorité à autre chose. J'ai pas de temps pour les autres, et d'ailleurs je donne pas d'argent parce que j'ai pas envie, quoi. Mon argent c'est pour moi. Bon. De la tri de l'argent. Ou ça peut me détourner de l'amour juste envers soi. L'amour juste envers soi consiste à prendre un vrai temps de repos toutes les nuits, à travailler comme il faut, etc. Et si ça me détourne de ça, ben, c'est que... Et donc on voit bien que la puissance de l'idole, c'est en nous éloignant de Dieu, nous éloigner de la source de la vie et de la capacité à vivre notre vocation d'homme et de femme dans les relations entre nous et avec Dieu, et dans la paix, quoi. Il y a une dynamique de vie qui se perd quand on rentre voilà, dans une forme d'idolâtrie. Et voilà, il faut qu'on soit lucide là-dessus. Pas pour s'en décourager, mais pour demander à l'Esprit-Saint qui nous éclaire, quoi. Peut-être que le temps du carême est le temps, justement, pour demander à l'Esprit-Saint de nous montrer quels sont les détachements de petites idolâtries qu'on ne voit peut-être plus, parce que nos mécanismes d'habitude font que, bah, on l'a toujours fait comme ça, donc on ne voit pas où est le problème, quoi. Et que l'Esprit-Saint, puis la rencontre avec les autres, peut nous aider à prendre conscience qu'il y a des attachements qui ne sont pas justes, parce qu'ils sont premiers par rapport à Dieu. Voilà pour... la lumière sur la libération des idoles qui nous empêchent de vivre. Et ce qui est très beau, c'est que quand Jérémie dit cela, qu'il aide à prendre conscience que l'exil a pour cause un éloignement et une rupture d'alliance, simultanément, il dit « Je vais conclure, enfin, de la part de Dieu, je vais conclure une alliance nouvelle. » Non pas comme celle qu'ils ont violée alors que j'étais leur maître, mais une alliance avec la communauté, la maison d'Israël. Et alors, les caractéristiques sont très très belles. Je vous les relis. Première caractéristique, alors c'est un petit passage que je n'ai pas lu, qui est juste avant. Où Dieu, alors, je vous lis le verset, c'est un peu surprenant, mais je vous l'explique. « Dans ces jours-là, on ne dira plus « Ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. » Donc, ça veut dire que la faute, c'est une image, la faute des pères se répercute sur les enfants. Ce jour-là, on dira « Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, c'est lui qui aura mal aux dents. » Pareil, c'est une image. C'est-à-dire que, en fait, Dieu veut une relation personnelle avec chacun. Il s'agit donc de la responsabilité personnelle de chacun dans la relation avec Dieu. Parce que, ultimement, Dieu veut une relation avec chacun et chacune d'entre nous. Je mettrai ma loi à l'intérieur de chacun d'eux, chacun de leur cœur. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu fait à la fois une alliance avec un peuple et en même temps avec chacun des membres de ce peuple. Et donc les deux niveaux, personnel et communautaire, sont indissociables. Chacun contribue à la relation au Seigneur de toute la communauté. Je ne sais pas si vous avez réalisé que votre participation à chacun d'entre vous est importante, participation à la vie de l'Église, à la foi, etc., est importante pour les autres, en particulier dans nos petites fraternités. On se soutient beaucoup les uns les autres dans notre chemin de foi. Moi, je suis bouleversé. Depuis 40 ans, je suis dans une petite fraternité avec des gens différents tous les ans, et je sais combien ça m'a porté, quoi. Je suis porté et j'espère avoir contribué à la croissance des autres. Et donc, chacun contribue à la relation au Seigneur de toute la communauté, et à l'inverse, la communauté soutient chacun dans sa relation au Seigneur, parce que c'est aussi la relation que le Seigneur veut avoir avec chacun, chacune d'entre nous. Deuxième caractéristique de cette nouvelle alliance, qui est très belle, « Je mettrai ma loi au fond de leur cœur, je l'écrirai dans leur cœur. » Au Sinaï, rappelez-vous, quand Dieu donne à Moïse les tables de la loi, c'est la loi inscrite sur les tables de pierre, et qui s'impose et qu'il faut respecter. Mais ici, Dieu va aller plus loin. La loi doit être gravée dans les cœurs. Donc c'est une transformation de l'homme qui n'est pas simplement soumis à un code extérieur qui avait déjà beaucoup d'avantages, parce qu'il avait une puissance de libération, mais c'est une conversion intérieure, hein. La nouvelle alliance donne à l'homme un cœur nouveau. On l'aura ça tout à l'heure dans le livre d'Ézéchiel, je mettrai en vous un cœur nouveau. Donc avant, la loi réglait la juste distance, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien avec Dieu et pour le respecter et l'adorer. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, parce que je ne sais pas si vous avez compris, mais la nouvelle alliance, elle se réalise en Jésus-Christ. C'est maintenant. La promesse qui est faite par Jérémie, 7e siècle avant Jésus-Christ, elle s'est réalisée en Jésus. Donc, ce que vous vivez, puisque vous êtes là, c'est déjà une lumière intérieure qui vous est donnée, ce qu'on appelle la loi intérieure, qui vous est donnée pour aimer Dieu. Pas simplement, vous n'êtes pas là pour vous soumettre à un règlement extérieur. Vous êtes là parce que vous avez perçu de l'intérieur l'amour de Dieu pour vous et que vous avez envie d'y répondre librement avec tout ce que vous êtes. Pas simplement dans la crainte. La loi donnée par Dieu à Moïse, elle avait l'intérêt de révéler le péché, c'est-à-dire de révéler tout ce qui fait obstacle à la liberté réelle des enfants de Dieu et à la vie. Mais ce que l'Esprit Saint nous donne de vivre aujourd'hui, c'est d'accueillir au plus profond de nous-mêmes cette loi du Seigneur, c'est-à-dire cet appel du Seigneur dans ce qu'on appelle le sanctuaire de la conscience. Dorénavant, chacun peut être ajusté de l'intérieur à Dieu. Quand on démarre dans la foi chrétienne, parfois on cherche des règles. Vous savez, ça vous arrive et c'est pas mal d'ailleurs. Mais dans le fond, où est-ce qu'il faut que je prie? Comment est-ce qu'il faut que je prie? À quelle heure? Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. C'est la question d'ailleurs que, si vous étiez là au tout début du parcours, sur la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, elle lui dit ça. Elle lui dit, nous, notre peuple, il prie ici, sur le mont Garizim. Vous, les Juifs, vous dites à Jérusalem, alors où est-ce qu'il faut aller prier? Comment est-ce qu'il faut faire, quoi? Et Jésus lui dit, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce qui est important, c'est la vérité de ton adoration. C'est pas la façon de faire, ni le lieu. C'est ton adoration en esprit et en vérité, plus profonde toi-même, quand tu lui donnes ta vie et que tu bénisses le Seigneur. Après, tu participes à la vie d'une église avec un rituel qui a du sens. Mais pas pour te conformer à une règle extérieure, mais pour entrer dans l'amour intérieur du Seigneur. Ce qu'on peut appeler l'intériorisation de la religion. La troisième caractéristique de cette nouvelle alliance, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, c'est un thème quand même récurrent qu'on a entendu tout au long de ce parcours, déjà dès le début avec Noé, qui était une alliance de miséricorde. Mais là, le Seigneur dit, je pardonnerai leurs péchés. Hein, et Jésus va donner sa vie sur la croix pour nous pardonner nos péchés. Et dans le baptême, ceux qui s'y préparent, vous allez recevoir le pardon complet de vos péchés. Avec la sortie d'Égypte, Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage du Pharaon. En pardonnant à son peuple son idolâtrie, Dieu le libère d'un esclavage bien plus profond, un esclavage spirituel, hein, en se mettant sous la coupe d'objets inanimés, d'idoles, se livrant ainsi à des pratiques mortifères. Il devient alors libre d'aimer Dieu, parce que la miséricorde du Seigneur libère en nous notre capacité à aimer et à vivre sous la bénédiction de Dieu pleinement. Puis la quatrième caractéristique qu'on a, hein, personne ne dira plus à son prochain ni à son frère « connais le Seigneur, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand », déclare le Seigneur. Hein. Parce que nous recevons le pardon du Seigneur, alors nous pouvons le connaître et l'aimer. S'il n'y avait pas la miséricorde, on serait écrasé par la divinité de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit « Nul ne peut voir Dieu sans mourir ». S'il n'y a pas le pardon de Dieu, c'est insupportable de mesurer l'écart entre ce que Dieu attend de nous et ce que nous sommes, être pécheurs et très imparfaits. Mais parce que Dieu nous aime et nous pardonne, alors nous pouvons profondément le connaître et l'aimer. Voilà. Le pardon nous introduit dans une communion nouvelle avec Dieu. Et ce que l'Esprit Saint vient réaliser en chacun et chacune d'entre vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que déjà, vous connaissez quelque chose du mystère de Dieu, sinon vous ne seriez pas là. Et puis, dans le baptême, dans la confirmation, dans la première communion, se déploie par le don de l'Esprit Saint, la connaissance de Dieu. Voilà quatre caractéristiques de cette nouvelle alliance que Dieu va réaliser en Jésus et annoncée par le prophète Jérémie. Et puis un autre très beau texte, j'ai déjà évoqué un peu, dans Ézéchiel, le chapitre 36. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. On a en mémoire le fait que le peuple est exilé à des milliers de kilomètres de sa terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Voilà. Par la nouvelle alliance, le cœur nouveau habité par l'Esprit de Dieu pourra observer la loi et aimer Dieu de tout son être. Voilà. Et une petite remarque, c'est que dans les deux textes, Jérémie et Ézéchiel, il y a une expression presque similaire, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple », ou « Vous, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu », c'est l'équivalent. Donc, Dieu s'engage à bénir son peuple et le peuple à appartenir à Dieu seul. Voilà. Le peuple est consacré à Dieu. Magnifique, hein. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Voilà, la Nouvelle Alliance, en résumé, c'est un peuple rassemblé sur sa terre, constitué comme peuple de Dieu. Nous sommes ensemble, on n'est pas simplement des électrons libres les uns à côté des autres, on est un peuple, voilà, par Jésus-Christ. Ce sont des fidèles qui connaissent Dieu, chacun personnellement. Nous pouvons chacun dire quelque chose du mystère de Dieu, révélé par Jésus. Des fidèles qui sont purifiés des idoles et réconciliés avec Dieu par son pardon. Des fidèles qui font la volonté de Dieu en pratiquant sa loi d'amour, c'est la morale du bien. Et puis la fécondité de la terre par l'Alliance, où on vit des bénédictions de Dieu, voilà, qui sont source de vie. Voilà. Et donc tout cela annonce ce que Jésus réalisera et réalise aujourd'hui au milieu de nous. Ça va ? Beau, hein ? Non ? En tout cas, moi, ça me... On peut apprendre par cœur ces paroles-là, c'est magnifique. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je t'aurai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » C'est magnifique, quoi. « Je mettrai en vous mon esprit. » Les promesses que Dieu fait sont magnifiques, quoi. « Je vais pardonner leurs péchés, tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Voilà. Et donc, notre péché n'est pas la fin, quoi. Autant il faut qu'on soit lucide sur ce qui nous éloigne de Dieu, autant le péché n'est pas désespérant. On ne désespère pas de notre péché. On en a conscience et on compte sur la grâce de Dieu. Il n'y a pas de péché trop grand pour Dieu. Réaction, question ? On a encore 3-4 minutes. Eh bien voilà, je vous laisse avec les questions qui sont là et que vous pourrez approfondir dans vos fraternités. Voilà. On a parfois un petit peu de mal à confesser ses propres difficultés. Alors, une question un tout petit peu incisive, la deuxième question que j'ai mise là. Quelles ont été mes idolâtries ? Quelles conséquences dans ma vie ? On peut dire, par exemple, j'ai réalisé que j'adore mes séries préférées et que ça a pris la place de Dieu, etc. Bon, j'adore. D'ailleurs, l'expression « j'adore » est intéressante parce qu'elle dit quelque chose de nos idolâtries. J'adore le chocolat, j'adore ce film, j'adore... non, on adore Dieu. Bon. Ça vaut le coup, d'ailleurs, de convertir notre vocabulaire sur le sujet. Alors après ça, est-ce qu'en fraternité, il faut qu'on dise tout sur nos péchés et nos dysfonctionnements ? La réponse, c'est non. C'est non. Bon. Et en même temps, le fait de pouvoir dire des petites choses nous permet de nous entraider, parce qu'on est tous fragiles. Et donc, dans la liberté, évidemment, dans la liberté qui est absolument nécessaire, on ne dit que ce qu'on veut dire sur nos propres fragilités, péchés, etc. Mais parfois, de dire des choses, de dire « voilà ce qui m'est arrivé, voilà, je réalise que j'ai été pris par telle idolâtrie, j'en demande pardon au Seigneur ». Et je compte sur vous pour m'aider à sortir de là. Et s'il te plaît, voilà, aide-moi. En fait, c'est beau, parce que là aussi, on est un peuple. On n'est pas seul à ramer face à nos difficultés, à nos péchés, quoi. On soutient les uns les autres. Saint Jacques, dans sa lettre au chapitre 5, versets 13 et 14, dit « Confessez vos péchés les uns devant les autres afin d'être sauvés. » Alors, avec, encore une fois, la nuance que j'apportais, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de tout dire sur toutes mes difficultés, tout ce qui m'éloigne de Dieu, tout ce qui m'éloigne de Dieu, mais en même temps, de pouvoir le dire, demander la prière. Je ne sais pas si vous le faites un peu, ça, dans vos petites fraternités, de dire, j'ai une question ou j'ai une difficulté, priez pour moi. Et on peut tout de suite s'arrêter et prier pour la personne, que le Seigneur t'aide à, par exemple, prendre un temps de prière tous les jours, c'est un combat pour toi, tu n'y arrives pas encore, il y a des choses qui sont compliquées pour toi, on va prier pour toi. Et tout de suite, on dit à notre Père, moi, je vous salue Marie, on prie ensemble, quoi. C'est beau. Prière des frères, c'est vraiment un soutien, quoi. Là aussi, on est un peuple. On est un peuple en chemin de libération de ce qui nous empêche d'aimer Dieu. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Ça va ? Bon, eh bien, rendez-vous dans 15 jours.